Bonsoir. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Christine Bouchard, directrice de la programmation culturelle. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir M. Pierre Hébert, professeur titulaire au département des lettres et des communications de l'Université Sherbrooke. La conférence de M. Hébert, intitulée « La censure cléricale a-t-elle vraiment influencé la littérature québécoise? » porte sur cette censure qui a pesé sur la littérature québécoise entre le milieu du 19e siècle et la Révolution tranquille. L'effet de celle-ci a-t-il été exagéré par la génération des bébés boomers qui y a mis fin? Ou au contraire, cette censure a-t-elle concrètement infléchi les œuvres, voire les genres? Sans plus tarder, je cède la parole à M. Hébert qui entend répondre à ces questions en abordant différents cas de censure. Une période de questions suivant la communication de notre invité. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée.
Okay. Merci beaucoup. Merci à vous d'être ici et d'avoir... braver une sorte de tempête de neige virtuelle, si j'ai bien compris. Mais on ne sait jamais, c'est les pires, je pense, celles-là. Alors, je vais m'installer. Alors, comme on vous l'a dit tantôt dans la présentation, mon but dans 45-50 minutes à peu près, disons, je vous l'annonce déjà, c'est d'essayer de répondre, peut-être pas de répondre, c'est peut-être exagéré, d'essayer de répondre à la question « Est-ce que la censure a réellement influencé la littérature québécoise? » À cette fin, je ne vais pas remonter au déluge tout de même. En fait, je vais aller bien avant ça. Je vais aller au premier cas de censure connu, selon une certaine version de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'histoire d'Adam et Ève. Puisque, n'est-ce pas, il y avait au milieu du paradis terrestre, paraît-il, un arbre interdit, qui était l'arbre de la connaissance et duquel il ne fallait pas manger le fruit. Que voilà un beau cas de censure. Et, bien sûr, comme on le sait, ceux qui sont censés être nos premiers parents ont croqué de la pomme ou quoi que ce soit, et ainsi, on finit par connaître le bien et le mal. Nous allons, nous aussi, croquer ce soir dans le fruit défendu, mais une autre sorte de fruit qui, lui, distingue vraiment le bien et du mal beaucoup plus qu'une pomme qui est plus utile pour les médecins, pour les éloigner, paraît-il. Nous allons donc aborder, comme fruit défendu, le livre. Le livre, en effet, fait partie... depuis qu'il existe, de ces fruits défendus, de ce principal fruit défendu qu'on a toujours voulu contrôler pour des raisons qui sont, je pense, assez évidentes. Toutefois, par-delà les cas célèbres, si on peut dire, de censure que l'on connaît, la question se pose, et c'est vraiment celle-ci que je veux poser ce soir, est-ce que la censure a réellement influencé la littérature québécoise? Évidemment, je ne suis pas sans savoir que la question d'influencer pose certains problèmes théoriques que je n'aborderai pas ici, et je vais plutôt l'aborder sous un angle concret, c'est-à-dire, comme on vous l'a dit tantôt, par une série de cas où, effectivement, la censure cléricale, en l'occurrence, du 19e siècle jusqu'à la Révolution tranquille, a eu divers effets sur la littérature québécoise. La raison pour laquelle je soulève cette question-là, est-ce que la censure a réellement influencé la littérature québécoise, elle est en réalité fort simple. C'est bien évident qu'il y a comme deux façons d'aborder la question. D'une part, on peut dire, c'est exagéré. D'autre part... non, c'était vraiment une censure réelle. Et de fait, André Lucier, qui a écrit un article fort important contre la censure dans Cité libre en 1960, a cru bon de reprendre cet article-là en 1997 dans un ouvrage, dans un livre, parce que précisément, selon lui, on a oublié à quel point les citoyens pensants, les citoyens en quête d'une saine et équitable liberté d'esprit, étouffaient à quel point le système politico-religieux avait réussi à mettre en cage, à bâillonner l'esprit de la majorité silencieuse. Mais ça, c'est un point de vue. C'est celui d'André Lucier qui reprend son article de 1960. Par ailleurs, dans l'autre perspective, vous avez Gilles Paquette dans « Oublier la Révolution tranquille » qui dit que, en ce qui le concerne, rien ne confirme, son expérience ne confirme en rien les fables qu'on a construites sur un régime politico-religieux de terreur, sur l'hégémonie de l'Église et sur notre intelligentsia ankylosée. Alors, vous avez donc deux versions d'interprétation de la censure, d'où la question, la censure a-t-elle cléricale, a-t-elle réellement influencé la littérature québécoise? Alors, mon but, c'est de montrer, à partir d'une série d'exemples, à quel point la censure cléricale s'est exercée à tous les niveaux de la vie littéraire, que ce soit au niveau des intentions de l'auteur, de leur nom, du manuscrit, du fait qu'ils sont ou non publiés, qu'ils conservent ou non leur emploi, qu'ils restent ici ou qu'ils s'exilent, c'est le parcours que je vous propose de faire pendant les prochaines minutes. Bref, j'ai décidé d'aborder une série de cas, organisés, je pense en tout cas, dans l'intention à tout le moins de circonscrire les effets de la censure cléricale de la fin du 19e siècle jusqu'à la Révolution tranquille. À cette fin, je vais aborder les effets de la censure à partir des cas en trois temps. D'abord, les effets sur le livre, ensuite, les effets sur l'auteur, et comme rien n'est parfait dans ce monde, pas même dans le merveilleux monde de la censure, quelques échecs de la censure quand même. Pause. Ça, c'était écrit dans mon texte, il fallait que je boive de l'eau. Cependant, avant d'aborder les cas de censure et sans offenser les connaissances de mon vénérable auditoire, je voudrais rappeler quelles sont les stratégies cléricales, religieuses de censure. Bien sûr, vous connaissez toutes et tous, à tout le moins de nom, le fameux index, c'est-à-dire cette liste des livres interdits par Rome et qui, l'index, a été promulgué en 1564 et a été abrogé 400 ans plus tard, en 1966. Pour qu'un livre soit mis à l'index, il fallait qu'une sorte de dossier soit acheminé à Rome et que le dit livre soit ensuite reconnu comme mauvais par la sacrée congrégation de l'index. Il faut bien distinguer l'index des interdictions locales, car les lois de l'index permettaient aux évêques, dans des diocèses particuliers, d'interdire tel livre dans leur diocèse sans que le livre soit nécessairement dans l'index Librorum Prohibitorum, c'est-à-dire l'index des livres interdits. Je vois que vous vous posez la question, c'est clair. Combien y a-t-il eu d'ouvrages mis à l'index au Québec? 30, 40, 50? 3. Et c'est peut-être pas ce qu'on pense. C'est absolument pas les demi-civilisés. C'est pas Marie Calumet. C'est des ouvrages qui sont à peu près inconnus. Les trois ouvrages qui ont été mis à l'index, donc qui ont fait partie, qui ont eu cet insigne honneur de faire partie d'un dossier qui a été acheminé jusqu'à Rome, sont, d'une part, les deux annuaires de l'Institut canadien pour 1868 et 1869, que tout le monde a lu, évidemment, et qui ont cet inconvénient d'attaquer le clergé. Alors, c'est des annuaires, mais ce n'est pas des annuaires téléphoniques, ce sont des conférences de Louis-Antoine Dessault. Quant à l'autre ouvrage qui a été mis à l'index, il s'agit du Clergé canadien, sa mission, son œuvre, d'un titre tout à fait orthodoxe, mais qui, en réalité, a été mis à l'index en 1896, et c'est le dernier ouvrage mis à l'index par Rome au Québec. Les autres ouvrages qui ont été interdits l'ont été localement et ne figurent pas parmi l'index des livres interdits. Par exemple, une des premières interdictions, puis on va aborder ça tantôt, bien sûr, c'est celle de Marie Calumet, mais c'est interdit par Mgr Bruchesi dans son diocèse et peut-être aussi éventuellement par d'autres évêques dans d'autres diocèses, mais pas du tout par Rome. Il y aurait long à dire sur ces cas-là, mais je les passe. J'en suis toujours aux différentes façons dont le clergé se servait pour contrôler l'imprimé. Il y a aussi, bien sûr, des guides de lecture, tels le guide de l'abbé Louis Bethléem, roman à lire et roman à proscrire, qui est un guide français, mais qui a été très populaire ici au Québec et qui a servi beaucoup pour les bibliothèques et les collèges. Ce guide de l'abbé Bethléem donnait donc une série de commentaires sur des ouvrages français. Nous, au Québec, nous avons eu la revue Lecture, qui a été fondée en 1946 par les éditions Fides, qui existaient déjà depuis 4 ans, qui a été fondée en 1946 et qui durera jusqu'en 1966, curieux hasard, l'année même de l'abrogation de l'index. La revue Lecture au Québec, donc, avait cette particularité de coter les ouvrages, tant québécois que français, à partir de la pire des cotes, M, je vous laisse deviner ce que c'est, mauvais bien sûr, dans D, dangereux, et ainsi de suite, il y avait 5 cotes. Alors, la revue Lecture s'adressait aux bibliothécaires, aux libraires, et avait commencé avec ce qui s'appelait mes fiches pour amener les jeunes à bien choisir leur lecture. Alors, ça aussi, c'est une autre façon que le clergé avait, en plus de l'index et des lois de l'index, de contrôler les écrits. Également, il y a une autre façon que je dois aussi dire pour contrôler les écrits, c'est, et peut-être l'avez-vous déjà remarqué quand vous ouvrez les livres d'une certaine époque, c'est l'imprimatur et le nickel obstat. Autrement dit, tout prêtre qui écrivait un livre, normalement, devait le soumettre à un comité de censure de son diocèse qui accordait le nickel obstat, qui veut dire rien n'empêche la publication de, et ensuite l'évêque accordait l'imprimatur, c'est-à-dire le permis d'imprimer. Tous les prêtres, normalement, étaient tenus de soumettre leurs manuscrits au comité de censure du diocèse pour avoir le nickel obstat et l'imprimatur, et les laïcs, bien sûr catholiques, qui traitaient de religion, en principe, devaient également soumettre leurs manuscrits pour avoir le nickel obstat et l'imprimatur. Cela fait le tour de quelques-unes des principales stratégies de contrôle de l'imprimé. Maintenant, abordons nos cas. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons les aborder sous 3 axes, et le premier de ceux-ci, c'est le livre après l'auteur et quelques échecs. Quant au livre lui-même, livre et texte, là je prends ça dans un sens très large, nous allons d'abord examiner quelques cas d'autocensure qui sont tout à fait marquants, toujours en lien avec le clergé, tout à fait marquants dans l'histoire littéraire du Québec. Après ça, nous allons examiner quelques cas de censure par ou contre l'imprimeur, par ou contre l'éditeur, et enfin, concernant la diffusion, toujours en ce qui concerne le livre. Ensuite, on examinera des cas concernant l'auteur. Le premier cas d'autocensure, il est assez extraordinaire. Moi, je pense, en tout cas. Et il s'agit du roman d'Arsène Bessette, Le débutant. C'est un roman qui est paru en 1914. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit au-dessus de Saint-Jean. Ce roman n'a pas été écrit pour les petites filles. Il s'agit de l'unique roman d'Arsène Bessette et qui est étonnant d'audace, de modernité, d'urbanité même. L'urbanité n'a pas commencé avec Bonheur d'occasion. Mais Bessette était déjà suspect aux yeux du clergé, parce qu'en 1907, il avait déjà dénoncé la censure théâtrale dans le journal Le Canada français. En plus, il faisait partie des francs-maçons, et ça a été découvert parce que des catholiques ont volé une liste à une loge franc-maçonnique en 1910, et le nom de Bessette y figurait. Il était donc, d'une certaine manière, disons, pour le moins suspect, lorsqu'est paru, en 1914, Le Débutant. Or, si Le Débutant a été censuré, mais pas officiellement, c'est une sorte de légende urbaine, ça. Il n'y a pas de texte clérico-officiel qui en indique la censure, l'ouvrage a été retiré et la famille l'aurait même brûlé sur la place publique. Cela dit, si le roman a été censuré, le manuscrit lui-même est 10 fois plus fort, virulent que le roman lui-même. 10 fois, je ne sais pas si on peut mesurer l'audace de cette manière-là, mais en tout cas, il est beaucoup plus violent que le roman lui-même. Voyons 3 exemples d'autocensure du manuscrit du débutant jusqu'à sa publication. Dans le manuscrit, vous avez le texte suivant. « Si jamais il se marie, il prendra une femme plate, anémique, par esprit de pénitence. Ça fera un joli couple, ils auront de beaux enfants. Avoir de beaux enfants, c'est-à-dire des enfants robustes et sains, bien peu songent à cela. L'on voit tous les jours se faire de tristes mariages et des couples qui font vraiment pitié dans cette bonne et pieuse province de Québec. » Ça, c'est ce qu'il y a dans le texte publié. Dans le manuscrit, il y avait aussi cette phrase qui a été enlevée, « Par esprit de pénitence et pour ne point offenser Dieu en cédant à des transports immodestes. » Mais aussi dans le manuscrit, si on reprend le paragraphe « Ça fera un joli couple, ils auront de beaux enfants », l'on voit tous les jours disparaît, et vous avez plutôt ce qui suit « Bien peu songe à cela », et ça c'est dans le manuscrit, « Dans cette bonne et pieuse province de Québec, tous les jours, il se fait des mariages monstrueux, et ses conjoints mal assortis, débiles, infirmes ou avariés, ne songent même pas qu'ils encourent de terribles responsabilités en rendant féconde leur union. » Deuxième exemple d'autocensure du manuscrit jusqu'à la publication, toujours dans le cas du débutant d'Arsène Bessette. Dans le texte publié, vous avez dans la situation suivante une femme qui est en train d'essayer des vêtements et sa tailleuse, je ne sais pas si le mot est exact, qui est en train de l'aider. Et pendant ce temps-là, il y a son prétendant qui l'observe à la dérobée, à la cachette. Dans le texte publié, vous avez « Oh, que vos bras sont beaux, madame », dit sa tailleuse, on va dire, là, « et quelles épaules, si j'étais un homme ». Mais dans le manuscrit, vous avez tout ce qui suit. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux, je vous rappelle qu'il y en a un qui la regarde à la cachette, le spectacle qui s'offrit à ses yeux le tint haletant pendant presque une demi-heure. Alors, on a perdu une demi-heure là, avec la publication. La couturière enlevait le corsage en disant « J'avais bien pris mes mesures, madame. Je crois qu'il vous gêne un peu à cause de la flanelle. Mais quand il n'y aura qu'une chemise ajourée sur ces vilains sournois qui pointent toujours, vous serez parfaitement à l'aise. Nous allons bien voir. Je vais ôter cette flanelle. Aidez-moi à dégrafer mon corset. » Le corset fut aussitôt enlevé et la flanelle enlevée. Deux seins fermes d'une blancheur de lait apparurent tressaillants comme pour s'offrir. La couturière en fut elle-même ravie. Ah, si j'étais un homme! Alors, on comprend peut-être un petit peu plus pourquoi sa remarque, mais toute la partie en rouge est disparue dans la publication. Dernier cas très court concernant cette fois-ci l'éducation, parce que Arsène Bessette attaque à peu près tout dans son œuvre. Concernant l'éducation, vous trouvez dans le texte publié, cet homme avait poussé l'audace jusqu'à réclamer plus d'anglais et moins de latin dans nos maisons d'éducation. Tandis que dans le manuscrit, vous aviez, cet homme avait poussé l'audace jusqu'à réclamer, et ce qui est souligné n'est pas là, et c'est plutôt la création d'un ministère de l'instruction publique, crime abominable, si l'on considère que par ce moyen, on enlèverait le contrôle absolu de l'éducation au clergé. Alors, ce sont là quelques exemples d'autocensure concernant le passage du manuscrit jusqu'à la publication. Nous allons maintenant examiner un second cas d'autocensure qui, cette fois, a plutôt contribué à retarder la publication et non pas à changer le manuscrit en fonction de la publication. Il s'agit de la publication du roman de Louis Dantin, « Les enfances de Fanny ». Louis Dantin, à qui on doit d'avoir fait connaître Néligan en 1904, Louis Dantin est un auteur critique qui s'est exilé en 1903 à Boston et qui a passé toute sa vie à Boston. Cependant, c'est de là qu'il a publié, c'est de là qu'il a entretenu une correspondance avec à peu près tous les écrivains ou écrivaines québécois dans les années 20 et 30. Il est certainement l'une des figures majeures de la littérature de cette époque-là. On pourrait parler pendant une demi-heure uniquement de Dantin. Mais le cas d'autocensure que vous avez ici, ce n'est pas une autocensure du manuscrit, mais bien de l'édition elle-même. Rosaire Dion-Lévesque, qui a été le légataire du manuscrit des Enfances de Fanny et qui en rédige la préface, écrit ce qui suit dans la préface des Enfances de Fanny. À cause du caractère autobiographique de ce roman, Louis Dantin craignait que sa publication de son temps fût cause de scandale. Ce scrupule l'empêcha de le livrer au public. En effet, Louis Dantin avait commencé ce roman dans les années 30. Dantin meurt en 45 et le roman n'est publié qu'en 1951. D'ailleurs, ce même Dantin avait écrit en 1939 à Alfred Desrochers, « En plus de son intrigue risquée, il me semble que ce roman sera une trahison à l'idée canadienne. » Et à Rosaire Dion-Lévesque en 42, « Comme cette histoire ne sera jamais publiée, je n'ai pas raison de me dépêcher très fort. » L'autocensure, donc, dans ce cas-là, n'agit pas sur le manuscrit, mais retarde la publication après la mort de l'auteur qui ne veut pas que ce soit publié de son vivant parce que cela créerait un trop grand scandale. Et il faut dire que ce roman est en bonne partie autobiographique, que le personnage est amoureux avec une jeune fille. De surcroît, elle est noire, il est blanc. Dans le roman, suicide et meurtre, bref, tout ce qui pouvait peut-être faire en sorte que le romancier pouvait craindre pour son œuvre. Un autre cas d'autocensure touche cette fois-ci encore la publication, mais contrairement au cas de Dantin, où c'est après la mort de l'auteur, cette fois-ci, c'est de son vivant. Et c'est le cas de Marie Calumet de Rodolphe Girard. Vous avez les pages couvertures des deux éditions de Marie Calumet qui ont été publiées de son vivant, l'édition originale en 1904 et la deuxième édition en 1946. Vous remarquerez en passant que les canons de la beauté ont l'air d'avoir changé aussi entre-temps. Il est intéressant de connaître cette histoire qui est une des plus extraordinaires concernant la censure, celle de Marie Calumet. D'abord parce qu'il s'agit de la première interdiction officielle d'une œuvre littéraire par un évêque, d'une œuvre littéraire au sens moderne du terme. Autrement dit, avant 1904, il n'y a pas, du moins à ma connaissance, de roman qui soit interdit par le clergé. Et celui qui l'interdit, c'est Monseigneur Bruchédy, l'évêque, l'archevêque du diocèse de Montréal. Il a lu le roman et voici ce qu'il en pense. « Je viens de parcourir ce livre, j'en suis écœuré. C'est une œuvre aussi impie qu'immorale, produit d'un cerveau mal équilibré ou d'un cœur gâté. Mais les choses ne doivent point en rester là. Voulez-vous avoir la bonté de me dire si M. Girard doit continuer de faire partie des rédacteurs ou des collaborateurs de votre journal? Parce que Rodolphe Girard travaillait au journal La Presse. Et ce que Mgr Bruchesi voulait, c'est qu'il soit congédié, ce qu'il sera. Il sera, de fait, congédié de La Presse à cause de Marie Calumet. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse ici, c'est l'autocensure. Que vient faire l'autocensure dans cette histoire? Rodolphe Girard, donc, je le rappelle, avait publié son roman en 1904 et il aimerait bien, de son vivant, tout de même avoir une réédition. Dans les années 30, il va s'essayer avec Albert Lévesque, sur lequel je reviendrai, mais à l'époque, Lévesque est déjà sous surveillance cléricale, si on peut dire, j'en parlerai, et il décide de ne pas publier Marie Calumet. C'est seulement en 1946, donc, que Marie Calumet est publiée. Cependant, et du vivant de Girard, cependant, Girard va changer considérablement son texte pour publier l'édition de 46. Autrement dit, si Bessette a changé son manuscrit, si Dantin a attendu sa mort pour faire publier son ouvrage, dans le cas de Girard, de son vivant, il a décidé d'édulcorer son texte, publier, de le transformer, bref, de l'autocensurer. Dans les termes suivants, voyons un exemple. Ce que vous avez à gauche, c'est, de toute évidence, l'édition de 1904 et à droite, l'édition de 1946, la même scène. En 1904, vous lisez « La nièce du curé, les joues en feu, éblouissante, fit le tour de la table pour enlever les assiettes à soupe. » Dans l'édition de 46, la différence n'est pas très grande. Suzon, elle a acquis un nom. Suzon, les joues en feu, ses grandes prunelles noires brillantes comme du jais, allaient de l'un à l'autre avec l'agilité d'une bûche. Bon. L'édition de 1904 poursuit. Comme elle se penchait près du curé Lefranc, parce que la nièce du curé est en train de leur servir le repas, j'ai oublié de dire ça, comme elle se penchait près du curé Lefranc, celui-ci succomba à la tentation. Il avait déjà trop résisté. Laissant tomber par terre son couteau, il se baissa aussitôt pour le ramasser. Mais en même temps, il saisit un mollet de la jeune fille avec la ténacité d'un bulldogue qui ne lâche pas. Dans l'édition de 1946, voici ce qu'on retrouve. Enlevant l'assiette à soupe du curé Lefranc, elle fit tomber accidentellement son couteau, alors qu'en 1904, c'était le curé qui le faisait tomber volontairement. Elle fit tomber accidentellement son couteau par terre. Elle se baissa pour le ramasser. Il avait fait le même mouvement. Leurs mains se frôlèrent. Le prêtre songea que saint Antoine avait eu beaucoup de mérite d'avoir résisté sans aucun doute à la tentation. Et il y a cette prime en 1946 qu'on n'a pas en 1904. Quatre, pleine de déférence pour un curé, Suzon ne protesta pas, parce qu'elle a toujours le mollet coincé par le bulldog, là, ne protesta pas. Et du reste, le curé Lefranc, dit Leblanc, était encore fort bel homme. Après ces cas concernant le livre d'autocensure, passons maintenant à une censure touchant l'imprimeur. Probablement que vous ne pouvez pas lire. Ah, vous pouvez le lire. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis supposé de vous dire, vous ne pouvez rien lire, mais ce n'est pas grave. Ça, vous pouvez le lire. Ben, lisez-le pas. Non, vous pouvez le lire. Ce que vous avez là, de toute façon, que vous le lisiez ou pas, c'est une lettre de Michaud, Paul Michaud, qui est l'éditeur de l'Institut littéraire du Québec dans les années 50, Paul Michaud. Et c'est une lettre adressée à Jean-Charles Harvey à propos de son roman « Les paradis de sable ». On est en 1952. Ce qui se passe, en fait, c'est que Harvey travaillait depuis plusieurs années à ce roman. Michaud s'en va chez l'imprimeur pour faire imprimer son ouvrage, mais voici ce qui se passe. Il écrit à Harvey, et ça, c'est la partie qui était dans la lettre de tantôt. 18 février 1952, c'est Michaud qui écrit à Harvey « Il m'entombe une tuile sur la tête ce matin. Mon imprimeur, qui était le soleil, refuse tout simplement d'imprimer votre ouvrage « Moralité ». C'est ainsi que je suis allé chez Thérien et Frères pour le livre de Charlotte Savary, à l'éclaireur de Beauce pour le livre de Paul Legendre. Mais il ne saurait être question de ni l'un ni l'autre dans votre cas, puisque tous deux avaient posé des objections dans le cas de Thériault. Il s'agissait probablement du roman « Les vendeurs du temple ». Ce serait aller là pour se faire refuser. Il ne faut en aucun prix que le manuscrit soit refusé trop souvent. Alors, on voit que les imprimeurs lisaient ce qu'ils imprimaient et que si, de fait, il y avait des problèmes de moralité, ça ne passait pas là non plus. Alors, ce que Harvey a dû faire, c'est de, comme Bessette, ça a été de changer son manuscrit et d'enlever surtout tout l'aspect érotique. Parce que ce qui traverse toute l'œuvre de Harvey, du début jusqu'à la fin, c'est l'érotisme, entre autres. Et c'est surtout là que le bas blessait. Alors, il a changé son manuscrit et finalement, Paul Michaud a réussi à trouver un imprimeur qui l'acceptait. Ce que vous avez donc dans la version éditée ou imprimée finale de 1953, c'est, par exemple, ce qui suit. « Je l'aidais à se dévêtir. Une à une, les pièces de son vêtement parfumé tombèrent à mes pieds. Sa beauté m'apparut plus réelle, plus parfaite, plus totale que je l'avais imaginée. » Et dans le manuscrit, vous aviez cette addition. « À mes pieds, et quand elle fut là, toute nue contre moi, avec ses seins jeunes et fermes, le creux de ses reins, le rebondissement splendide de ses hanches et de ses longues jambes, sa beauté m'apparut plus réelle, etc. » Et les suppressions de ce genre sont innombrables dans le manuscrit des Paradis de sable de Jean-Charles Harvey. Voyons maintenant, après, toujours dans le domaine du livre, après l'autocensure, après l'imprimeur, la question de censure qui touche les éditeurs. Albert Lévesque, le père de Raymond par ailleurs, Albert Lévesque est un des éditeurs les plus importants des années 30 au Québec. Pour comprendre le cas de censure ou l'état de censure dans lequel il va se retrouver, il faut savoir qu'Albert Lévesque travaillait d'abord à l'Action française de Lionel Groulx comme commis. Donc, qu'il fréquentait une clientèle, si on peut dire, clérico-nationaliste. Et à la suite de la faillite de l'Action française et de sa fermeture en 1927, Albert Lévesque achète le fonds et part sa propre maison d'édition, d'abord l'Action canadienne française et ensuite les éditions Albert Lévesque. Cependant, ce qu'il veut faire, Albert Lévesque, c'est s'émanciper en quelque sorte, se distinguer du créneau de l'Action française et par conséquent s'ouvrir un autre public en dehors de cette élite cléricale nationaliste. Alors, pour cela, il décide de lancer une nouvelle collection, audacieuse pour l'époque au début des années 30, et voici dans quels termes il la présente. Trouverait-on un éditeur assez audacieux pour prendre les risques de lancer de tels ouvrages qui ne manqueraient pas de susciter une réaction? Nous avons été choisis comme instrument. C'est ainsi que la série « Romans de la jeune génération », c'est ça la collection qui lance, compte aujourd'hui 4 volumes auxquels viendront s'ajouter sans doute l'an prochain de nombreux petits frères. Et ces 4 volumes, effectivement, dont en voici 2, « Dans les ombres d'Eva Sénécal et la chair décevante » de Jovette Bernier, ces 4 volumes qui font partie de la collection « Les romans de la jeune génération » sont en effet tout à fait détonnants et étonnant pour l'époque. Ce sont des romans qui préfigurent le roman psychologique des années 50, où ce n'est plus le groupe ni la famille qui est au centre, mais l'individu et certains problèmes qu'on qualifierait aujourd'hui de plus contemporains, disons. Toutefois, le clergé est extrêmement inquiet, justement, de cette nouvelle collection, parce que ça fréquente de nouvelles eaux, si on peut dire, beaucoup plus individualistes. Et Albert Lévesque est devenu suspect aux yeux du clergé à un tel point qu'Albert Tessier, par exemple, l'abbé Albert Tessier, va lui rendre visite pour lui faire entendre raison, pour le convaincre d'abandonner cette collection. Finalement, c'est ce qu'il va faire. Albert Lévesque va abandonner sa collection. Il en annonçait d'autres après ses quatre romans. Il n'y en aura plus jamais d'autres. Il va abandonner sa collection. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est à cause de la censure? C'est l'extrait d'une lettre qui va suivre concernant une publication de Louis Dantin. Car Louis Dantin écrit à Albert Lévesque en 1931-32 pour lui demander de publier ses recueils de poèmes. Et Albert Lévesque, comme c'est des poèmes un peu tendancieux, Albert Lévesque lui écrit « Si les autorités ecclésiastiques de la province n'étaient pas déjà un peu prévenues contre ma maison depuis la publication des romans de la jeune génération, je craindrais peut-être moins de prendre des risques. Cela vous explique pourquoi, après avoir payé d'audace avec les romans de la jeune génération, je veux pendant quelque temps du moins rentrer sous ma tente. » Autre problème avec des éditions, toujours notre ami Jean-Charles Harvey, puis lui, de toute façon, il a eu des problèmes toute sa vie avec la censure. Je me demande s'il ne courait pas après, même, des fois. En fait, il courait après parce que quand les demi-civilisés ont été interdits en 1934, il a reçu un télégramme de Jovette Bernier qui s'intitulait « Félicitations pour l'index ». Donc, j'imagine que c'est ce qu'il voulait, frapper au bon endroit. Toujours est-il que Jean-Charles Harvey veut publier un recueil de poèmes érotique, bien sûr, c'est presque un pléonasme dans le cas d'Harvey, un recueil de poèmes érotiques, « La fille du silence », mais que personne ne veut accepter, justement, pour cette raison-là. Et là, on est dans les années 50. Il s'essaie d'abord aux éditions Chanteclerc en 1954, mais on allègue le marasme du marché. Et il est obligé de patienter jusqu'en 58, et il s'essaie au Cercle du Livre de France, mais l'éditeur dit qu'il est empêché par des éléments dont il doit tenir compte. Et là, Harvey dit, bon, bien, qu'il commence à comprendre que c'est effectivement le contenu érotique. Et le recueil ne sera publié qu'en 58, mais aux éditions d'Orphée et aux frais même de Jean-Charles Harvey, après avoir tenté deux éditeurs. Concernant le livre, toujours, après l'autocensure, après l'imprimeur, après l'éditeur, la diffusion. Que voilà un beau cas. Ben là, c'est pas un livre, c'est une revue, mais ça compte pareil. Parce qu'au 19e siècle, ce sont presque uniquement des revues qui sont censurées ou des journaux. Donc, quel beau cas ici que celui de Canada Revue. Il s'agit d'une revue fondée en 1891 par Aristide Filiatro, qui réclame, la revue, une plus grande liberté religieuse, qui publie ou annonce en tout cas des mauvais feuilletons, dont Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas qui est à l'index et qui va publier dans ses pages Canada Revue, et qui met une bibliothèque à la disposition de ses abonnés, de telle sorte que le clergé craint bien évidemment de perdre le contrôle des bibliothèques. Monseigneur Fabre, l'évêque de Montréal, en 1892, au mois de novembre 1892, interdit la lecture de Canada Revue, interdit publiquement la lecture de Canada Revue. Il s'agit d'un cas extraordinaire parce que Aristide Filiatro, et c'est une première dans l'histoire de la censure, décide de poursuivre Monseigneur Fabre en cours. Et il y a effectivement un procès. Il décide de le poursuivre pour 50 000 $ en cours parce qu'il a fait, il a entraîné son journal à la ruine. Le procès, la situation est cruciale pour le clergé parce que si jamais le juge décide que Filiatro a raison, c'est tout le pouvoir de censure du clergé qui vient de s'écrouler. Et les lettres de Fabre là-dessus, à ce sujet, qui sont envoyées à Rome, sont très claires. Mais le juge, en fait, donne raison à Monseigneur Fabre dans la censure qu'il a exercée à l'endroit de Canada Revue. Nous avons, oserais-je dire, l'avantage de posséder au complet et d'accès très facile toute la transcription de ce procès dans un livre qui s'intitule « La grande cause ecclésiastique ». S'il y en a qui connaissent Des Saules, il s'agit d'un écho évident à la grande guerre ecclésiastique de Des Saules qui avait été censurée 20 ans avant. La grande cause ecclésiastique donne tous les témoignages du procès, c'est fort intéressant. Et vous avez, par exemple, ce petit témoignage. « Que voulez-vous dire, monsieur, quel a été l'effet de l'interdiction ou du mandement pour le journal? » L'avocat pose cette question-là à Filiatro. « Ruine complète, dit-il. » Mais cette ruine complète ne suffit pas. Le le juge, néanmoins, donne raison à Mgr Fabre. Toujours concernant la diffusion, ici c'était les abonnements qui avaient été affectés, encore Jean-Charles Harvé. Il y en a deux qui sont présents partout, c'est Jean-Charles Harvé et, selon l'époque, et Louis Dantin. Jean-Charles Harvé a fait paraître en 1929 ce recueil de contes qui s'intitule « L'homme qui va », un recueil par ailleurs fort intéressant. Mais il se trouve que le recueil contient encore des passages érotiques. De telle sorte que le curé de la basilique de Québec, c'était Mgr Laflamme, sauf erreur, demande à ses fidèles de ne pas lire l'ouvrage et surtout aux libraires de les retirer, et c'est pour ça que je parle de diffusion, de les retirer de leur comptoir. Même qu'il y a un prêtre, apparemment, qui parcourt la ville de Québec pour enlever l'homme qui va des étalages. C'est en tout cas ce que dit cette lettre de Louis Dantin à Desrochers au mois de décembre 1929. Dantin était pas mal au courant de ce qui se passait au Québec. « N'y a-t-il pas eu des prêtres zélés courant tout récemment les librairies de Québec pour faire enlever des vitrines « L'homme qui va » de Harvé? Et on se demande pourquoi la littérature canadienne reste étroite, mesquine et médiocre. Et de fait, Harvé s'est plaint lui-même précédemment à Camille Leroy. Un membre du clergé de Québec s'est permis, je ne sais au nom de qui et de quel droit, d'aller faire enlever mon volume de la vitrine de la librairie Garneau. Le bruit court même que quelques bigots auraient fait des démarches pour me mettre à l'index. Nous avons donc parcouru une bonne partie des cas de censure concernant le livre. Maintenant, nous allons aborder les cas de censure concernant l'auteur. Ce sera un peu plus bref, ne vous inquiétez pas. Sous trois angles et trois exemples qui touchent la signature, la perte d'emploi et l'exil. D'abord, la signature. La censure, de toute évidence, a un grand effet sur la signature, que ce soit par l'anonymat ou par le pseudonymat. Nombreux sont les cas au Québec d'anonymat ou de pseudonymat liés à la censure, mais l'un des plus intéressants, et ce sera le cas dont je vais parler ici, c'est celui de Louis Dantin. Louis Dantin, ça c'était le roman « Les enfances de Fanny ». Louis Dantin écrit à la fin des années 20 trois chansons, qui sont en réalité trois poèmes, qui s'intitulent « Chansons intellectuelles »,« Chansons javanaises » et « Chansons citadines ». Dantin entretient à ce moment-là une correspondance avec, entre autres, Alfred Desrochers, et lui envoie ses chansons. Desrochers les trouve très bonnes et veut les publier. Desrochers travaille à la Tribune de Sherbrooke à ce moment-là. Desrochers veut les publier, il trouve que c'est vraiment excellent. Mais Dantin, enfin, non pas refuse, mais pose la condition suivante. Si vous pouviez trouver un moyen de garder cet opus vraiment anonyme, je n'aurais pas d'objection personnelle à l'édition très limitée que vous projetez. Mais il faudrait pour cela beaucoup de précautions. Il faudrait laisser la brochure sans aucun nom d'auteur, pseudonyme ou autre. Le titre complet pourrait être « Chanson javanaise, journal d'un Canadien errant ». Et je compterais sur votre discrétion absolue pour ne révéler l'auteur à personne. Cela deviendrait très tôt le secret de Polichinelle et causerait un scandale de tous les diables. Et Desrochers revient à la charge et dit « Vous êtes vraiment entêté de ne pas signer d'aussi bons poèmes », et Dantin réplique de manière péremptoire, « Imprimer la chanson seule, sans aucun nom d'auteur, c'est le plus que je puisse me permettre, et cela même me fait courir des risques. Le reste, vous le publierez, si vous voulez, après mes funérailles. » Donc, la signature, premier cas, j'ai parlé aussi de perte d'emploi. Voici un cas peut-être assez peu connu, et somme toute assez récent, celui du recueil de poèmes « Broussailles givrées » de Guy Robert, le critique d'art. Ce recueil de poèmes, « Broussailles givrées », est paru en 1959. À ce moment-là, Guy Robert enseignait au séminaire de Gaspé. C'était son premier emploi. En 1961, un élève le dénonce auprès de l'évêque car ses poèmes contiennent des éléments plutôt révolutionnaires et pas très, c'est le cas de le dire, catholiques. Il est congédié sur le champ. Alors, Guy Robert perd son premier emploi à cause du recueil Broussailles-Givré et les libraires doivent retirer les exemplaires et les retourner à l'éditeur. Donc, signature, perte d'emploi, exil, toujours contre l'auteur. Comment ne pas parler de Bordua, bien qu'il ne s'agisse pas strictement parlant d'une censure, disons, cléricale, mais comment ne pas parler de Bordua, qui fait paraître en 1948 Refus global, qui crée la commotion que l'on sait, et qui fait en sorte que Bordua, d'une part, perd son emploi à l'École du meuble, et d'autre part, étant persona non grata, décide de lui-même de partir, de s'exiler du Québec, et des cas d'exil, on pourrait en trouver d'autres. Mais, comme je vous disais tantôt, tout n'est pas parfait dans le monde de la censure. Voyons maintenant quelques échecs de la censure. Premier cas d'échec, l'effet boomerang. Deuxième cas, la puissance commerciale. Parfois, c'est trop fort pour le clergé. Et troisième cas, l'éditeur entêté. D'abord, l'effet boomerang. Il s'agit de l'effet boomerang d'un cas très célèbre, celui des demi-civilisés de Jean-Charles Harvey, publié aux éditions du Totem en 1934. Ce roman est interdit par le cardinal Villeneuve tout de suite après sa parution. Cependant, il y a un effet boomerang qui est ma foi digne du début du film « Les dîners de cons », qui est presque aussi bon que ça, et qui est le suivant. C'est que Monseigneur, le cardinal Villeneuve, je ne sais pas s'il avait mal organisé ses flûtes ou quoi, mais le cardinal Villeneuve a été le seul à interdire ce roman-là, de telle sorte que dans le diocèse de Montréal, ça c'était à Québec, dans le diocèse de Montréal, le roman n'était pas interdit. Alors, vérité au-delà, erreur en deçà, mais là c'est entre Montréal et Québec, si bien que voici la lettre de l'éditeur, Albert Pelletier, qui lui est le père de Gilles, Albert Pelletier, qui écrit à Alfred Desrochers concernant justement cette censure ratée à propos de son roman. « Mon cher Desrochers, 28 avril 1934, le roman est paru le 24, si je me rappelle bien. Mon cher Desrochers, depuis l'interdiction des demi-civilisés, j'ai vendu 700 exemplaires des demi-civilisés à Montréal, là où il n'était pas interdit. 147 hier et le reste cet après-midi. » Il ne m'en reste pas plus un seul exemplaire ici. Un boom, une surprise, une réclame comme il ne s'en est jamais vu. Je me demande si, en conscience, je ne dois pas payer une commission au cardinal comme argent de publicité. Autre cas, cette fois-ci, le dernier d'une censure, même pas ratée, impossible. Et ça, c'est peut-être assez peu connu et par ailleurs fort intéressant pour l'époque. La revue Life, la revue états-unienne, qui tire des millions d'exemplaires, a fait paraître le 19 octobre 1942 un numéro sur le Canada français. Mais c'est un reportage photographique sur un petit village de Charlevoix qui s'appelle Saint-Fidèle. Il était bien choisi par rapport au nom. D'autant plus que ce reportage est très tendancieux, c'est-à-dire qu'il ne montre qu'une province vraiment sous la gouverne cléricale, dans toutes les photos qu'il y a, parce qu'il y a plusieurs pages, dans toutes les photos, on voit tout le monde agenouillé tout le temps, c'est clair, au conseil de ville avant le début, tous les mouvements, les quatre mouvements d'action catholique sont là, tout le monde est à genoux, c'est vraiment fascinant. Cela n'a pas eu l'heure de plaire aux évêques du Québec, qui ont protesté, d'autant plus que Jean-Charles Harvey, encore lui, ça, c'était le 19 octobre. Jean-Charles Harvey, à ce moment-là, il a le journal Le Jour, publie en traduction le texte de Life dans son journal Le Jour quelques jours plus tard. Et il y avait de quoi pas plaire au clergé, puisqu'on pouvait lire parmi bien des choses que le Québec, c'était « the most unprogressive of the settled provinces ». Et c'est comme ça tout le long. Alors, les évêques du Québec et même du Canada, en fait, c'est les archevêques du Québec et du Canada, protestent collectivement contre Life. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre Life? Presque impossible. De toute façon, trop peu, trop tard. Dernier cas, celui de l'éditeur entêté. Comment ne pas parler des insolences du frère Untel? Impossible, bien sûr. Alors, comme vous le savez peut-être, Jean-Paul Desbiens, frère Untel, envoie un certain nombre de lettres assez caustiques, mais aussi en même temps humoristiques, au journal Le Devoir en 1959. Un certain éditeur trouve ça pas mal intéressant et décide de proposer au frère Untel de publier ces lettres-là en volume, qui seront bien évidemment les insolences du frère Untel. Cet éditeur, il s'agit bien sûr de Jacques Hébert, qui avait fondé en 58, si je me rappelle bien, les Éditions de l'Homme. C'est là que seront publiées les insolences du frère Untel. Mais il se trouve que le frère Untel était sous une interdiction de sa communauté parce que sa communauté avait pris connaissance des lettres qu'il avait publié dans Le Devoir et lui avait interdit d'en publier d'autres. Mais il ne savait pas que le frère Untel avait pris des ententes avec Jacques Hébert pour publier un livre qui était déjà sous presse. Alors, quand la communauté a pris ça, ils sont allés voir Jacques Hébert à la course, lui ont offert 5 000 $ pour payer les frais d'impression pour qu'il retire le livre. Ce que Jacques Hébert a refusé. Si on le connaît un peu, on n'est pas étonné. C'est ce que j'appelle l'éditeur entêté, et qui a fait en sorte, bien sûr, qu'il s'agit d'un des livres majeurs du début de la Révolution tranquille. Je conclus en trois temps. Tout d'abord, à l'exception du frère Untel, vous avez vu assez peu de prêtres qui ont été censurés, mais c'est simplement faute de temps. Je ne voudrais pas donner l'impression que c'est seulement les laïcs qui ont été objet de la censure cléricale, des prêtres aussi. Alexis Pelletier, au 19e siècle, s'est vu interdire 3 ou 4 brochures, un livre. Lionel Groulx, même, avec l'appel de la race, a eu très peur d'être interdit. Voici un cas assez particulier. C'est pour ça, la réponse de la race, qui est signée Lambert Kloss. Mais en vérité, c'est l'abbé Henri Gay. Il s'agit d'un prêtre. C'est un ouvrage d'un antisémitisme déconcertant, mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas pour cette raison que je le retiens. C'est que vous avez en bas l'imprimatur du cardinal Villeneuve. Bien, c'était faux. Il a complètement berné son cardinal, il lui a jamais demandé l'autorisation, si bien que le cardinal Villeneuve a dû intervenir publiquement et dénoncer l'abbé Gay en disant qu'il n'acceptait pas, qu'il n'avait jamais accepté cette publication-là. Alors, il ne faut pas s'imaginer que tout est harmonieux dans le monde clérical non plus, mais alors, pas du tout. Deuxième partie de ma conclusion est en trois temps, je ne l'avais peut-être pas dit. Deuxième partie de la conclusion. Évidemment, bon, pas seulement parce que le temps est court pour faire le tour de la censure, mais aussi parce que certaines limites, nécessairement, grèvent ce genre d'entreprise. Il y a une phrase dont je me rappelle, pas l'auteur, mais dont je me rappelle la phrase, que j'ai toujours trouvée extrêmement intéressante. C'est une phrase d'un scientifique qui dit « ce que mon filet n'attrape pas n'est pas un poisson. » Alors, évidemment, ce que l'on a attrapé, c'est fonction du filet qu'on avait. Si les mailles sont trop grosses, bien, les menhirs vont passer au travers. Notre filet a peut-être attrapé certaines choses depuis quelques minutes, mais il en a certainement échappé d'autres. Et l'une de ces choses, excusez le mot « chose », mais de ces choses, qu'il a échappé, mais sur lequel je veux quand même insister, c'est simplement la peur. Il ne faut pas sous-estimer, par-delà les cas qu'on a pu traverser, l'influence ou le rôle que la peur peut avoir joué et qui fait en sorte que, justement, il y a bien des cas que mon filet ou notre filet n'a jamais pu attraper parce que, précisément, ils sont toujours restés dans le secret. Prenez, par exemple, le cas des demi-civilisés au moment où Jean-Charles Harvey voit son livre interdit en 1934. Desrochers écrit à Harvey ce qui suit. C'est une lettre privée. « J'ai lu ton livre, et si j'avais le droit d'écrire, sans mettre en danger de crever de faim ceux qui dépendent de moi, et ça, c'était souligné dans le texte, je dirais que ton livre prouve l'inanité des libertés individuelles, pourquoi se battre ou s'efforcer de se battre ceux à qui convient le titre d'intellectuel au Canada. » Justement, Jean-Charles Harvey a prononcé en 1945 une très importante conférence qui s'intitule « De fait, la peur ». C'est une conférence qui avait attiré à l'époque beaucoup de personnes et qui avait aussi fait beaucoup de bruit parce que je pense qu'il avait touché un des éléments essentiels, la peur, et aussi parce que, de fait, c'est un élément central dans la censure. Et dans sa conférence, entre autres, il dit ce qui suit, « De quoi avons-nous peur? Eh bien, nous avons peur de la puissance suprême, de la puissance à laquelle vous pensez tous en ce moment et que personne d'entre vous n'ose nommer. » Et après quelques paragraphes, il la nomme, lui, « La seule puissance qui, dans cette partie du Canada, fait trembler tout le monde, c'est la puissance cléricale. » Et si jamais vous avez lu Refus global, vous savez qu'il y a ce passage qui dénonce la peur. Le règne de la peur multiforme est terminé. Dans le fol espoir d'en effacer le souvenir, je les énumère. Peur des préjugés, peur de l'opinion publique, des persécutions, de la réprobation générale, peur d'être seul sans Dieu et la société qui isole très infailliblement, peur de soi, de son frère, de la pauvreté, peur de l'ordre établi, de la ridicule justice, peur des relations neuves, peur bleue, peur rouge, peur blanche, maillon de notre chaîne. Troisième partie de ma conclusion et la dernière. Je reviens à la question initiale. La censure a-t-elle réellement influencé la littérature québécoise? C'est assez... Je pense que vous connaissez déjà ma réponse. C'est évident que, pour ma part, j'ai tendance à dire que oui, qu'elle l'a influencé. Non pas dans le sens que je me pose la question, bon, qu'aurait été la littérature québécoise s'il n'y avait pas eu la censure? C'est une question qui est absurde et inutile. Mais je pense pouvoir dire cependant que dans le cas des auteurs, que dans le cas des genres, que dans le cas de la signature, que dans le cas des libraires, que dans le cas des bibliothèques dont je n'ai pas parlé, etc., que la censure a eu un effet sur la littérature québécoise. Non pas par rapport à un but à atteindre, mais qu'elle a eu un effet. Il faut, je pense, prendre acte de cette censure de la manière la plus juste possible. Et pour terminer, je vais laisser la parole à nul autre que Louis Dantin, qui, à mon avis, dans sa clairvoyance, en 1929, avait déjà perçu effectivement ce que la censure peut exercer sur l'imaginaire littéraire. Voici d'abord le contexte de cette lettre à Alfred Desrochers. On est au mois de décembre 1929. Louis Dantin envoie comme cadeau de Noël à Alfred Desrochers les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Desrochers reçoit le cadeau, mais le lui retourne. Pour quelle raison? Parce que les confessions sont à l'index. Première leçon, même dans le privé, la censure agit, parce que personne ne l'aurait su. Dantin reçoit à son tour les confessions, il est déconcerté. Déconcerté par cette attitude de Desrochers, qu'il respecte cependant, mais en même temps, il lui écrit une longue lettre de 8 pages, qui est un des réquisitoires les plus extraordinaires, les plus justes aussi, je dirais, les plus sentis, et on est en 1929, à propos de la censure. En voici un extrait pour terminer. « Il ne me viendrait pas l'idée, par exemple, de me moquer de vous, dit-il à Desrochers, parce que vous avez scrupule à lire les confessions de Jean-Jacques. Mais je puis bien avec cela haïr l'obscurantisme qui vous le défend. Et je me demande comment, dans le domaine de l'art littéraire, un esprit peut jamais atteindre à son complet développement, enserré dans ses bornes étouffantes. Il faut sûrement plus que du génie pour pouvoir s'isoler ainsi de toute la tradition des siècles. Vous vous en rendez bien compte, n'est-ce pas, qu'une moitié ou plus des chefs-d'œuvre de la littérature française sont interdits aux catholiques obéissants. Vous ne pouvez lire ni les essais de Montaigne, ni l'Esprit des lois, ni les lettres persanes de Montesquieu, ni rien de Rousseau, de Voltaire, de Diderot. Pour des époques plus proches, on reste abasourdi de voir à quoi il faut fermer les yeux. On ne peut lire Notre-Dame de Paris, Les Misérables, Jocelyn, Le Voyage en Orient. On ne peut rien lire, imaginez-vous, d'Alexandre Dumas, père et fils, ni de Georges Sand, ni de Sou, ni de Soulier, ni de Stendhal, ni de Stern. Et que dire de Maupassant? Maupassant y échappe, le chanceur. On ne peut rien lire de Balzac, c'était souligné dans sa lettre, c'est à croire qu'il prévoyait l'affaire Balzac en 1950. On ne peut rien lire de Balzac, ni de Zola. On doit ignorer Madame Bovary de Flaubert. Croyez-vous vraiment qu'on puisse se passer de toute cette éducation intellectuelle et devenir un écrivain? Je vous remercie de votre attention. Parce que j'avais bien dit que je laissais le mot de la fin à Dantin. Il paraît qu'il y a une période de questions ou de commentaires. N'hésitez pas, ça me fait plaisir. Il y a du micro. Mais... on raconte que... Je vais faire de l'entertainment pendant ce temps-là. On raconte que Northrop Frye, le grand critique canadien-anglais, quand il donnait ses cours à l'Université de Toronto, il donnait un cours, puis je ne me prends pas pour Northrop Frye, mais là, il disait, avez-vous des questions? Puis là, il prenait un livre, puis il lisait pendant 4-5 minutes pour que les gens aient le temps de réfléchir à leurs questions. Pas bête, mais on n'est pas obligé de faire ça. Volontaire.
Je pense que je n'ai pas besoin de micro. C'est juste pour savoir, par curiosité, vous pouvez me répondre comme vous pouvez ne pas me répondre. Vous êtes. Ça paraît que vous lisez beaucoup et tout ça. Moi, je ne lis pas trop. Mais je voulais savoir simplement, est-ce que vous avez déjà lu l'Évangile ou pas? Je ne sais pas si c'est votre choix. Vous pouvez me dire que ce n'est pas tout à fait, ça ne marche pas.
J'ai déjà lu l'Évangile?
Oui.
Oui, à partir en tout cas. Oui, j'ai été élevé là-dedans.
C'est juste ça.
Oui, tout à fait.
Merci.
Si jamais, je ne sais pas ce que signifie le sous-texte de la question, mais si jamais on pourrait penser que les propos que je tiens sont une sorte de règlement de compte avec... Dieu. Non, c'est ça. Mais pas du tout. J'en suis aux institutions humaines, en fait. La partie institution humaine, en quelque sorte, du clergé. Et ce que l'histoire... je ne veux pas vous prêter d'attention dans votre question non plus, mais je veux juste en profiter pour puis si vous n'êtes pas d'accord... Mais... OK. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que... ce qui m'intéresse dans ce cas particulier de la censure cléricale, comme dans toute censure, c'est la question du pouvoir. Et je pense que quand Montesquieu écrivait dans l'Esprit des lois, le pouvoir laissé à lui-même va s'étendre indéfiniment, que ce pouvoir soit clérical, politique ou autre, je pense que c'est une presque loi du pouvoir. Et c'est pour ça que Montesquieu disait qu'à tout pouvoir, il faut toujours poser un contre-pouvoir. Et si j'ai une croyance, quelles que soient les allégeances, c'est celle-là. C'est que tout pouvoir fait tache d'huile, en quelque sorte, et doit être d'une certaine manière contenu par un contre-pouvoir. Voilà. Mais peut-être ça permet... Oui.
Ça, vous voulez dire pas seulement clérical, n'importe
quel. Oui, c'est clair.
Parce qu'ici, on est chanceux, on est libre, mais il y a d'autres pays, c'est peut-être pas l'Église qui bloque, mais c'est le gouvernement, peu importe.
Absolument. Ce qui est très particulier dans le cas du Québec, mettons si je compare à la France, c'est le peu d'importance de la censure politique. En France, la censure politique et religieuse est extrêmement importante. Ici, ça a été surtout une censure religieuse. Peut-être parce que le clergé avait presque pris un contrat social de gouverne des mœurs, mais la censure religieuse est infiniment plus présente ici qu'en France par rapport à la censure politique. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La censure politique commence au Québec, on s'en doute un peu, dans les années 60. Là, il commence à y avoir des procès en vertu de la loi sur l'obscénité. Ça, je n'ai pas abordé cette question-là parce que je parlais uniquement de la censure cléricale, mais avec la loi sur l'obscénité qui est votée en 1959, là, il commence à y avoir des procès contre l'amant de Lady Chatterley, mais ça se passe ici à Montréal, contre l'amant de Lady Chatterley, contre Histoire d'eau, contre le mal des anges, contre Pierre Vallière, mais cette fois-ci, c'est dans le domaine juridique. Tout à fait. Mais je ne voulais pas vous pointer une attention dans votre question non plus, là, juste si les gens... Pascal. Ouais. La question qui tue, ça. C'est ça. mais quand même, elle doit être soulevée pour justement relativiser les choses en regard de la censure. Bien, je vais reprendre là où j'ai laissé tantôt. C'est-à-dire que la censure passe, disons, d'une soutane à l'autre, là, de la soutane cléricale à la soutane, pas à la soutane, mais à la toge juridique au tournant des années 60 à peu près. Pour faire une histoire courte, le clergé est complètement dépassé par la commercialisation du livre et en particulier par toute la question des comic books américains qui déferlent ici dans les années 40-50. Alors, il est obligé de demander l'aide au bras séculier, à la justice. Et c'est à ce moment-là que la loi sur l'obscénité est votée en 1959. En vertu de cette loi-là, bien, c'est là que un certain nombre de procès ont lieu ici. Il y a eu cette censure-là, de type juridique, si tu veux. Il y a la censure politique, évidemment, qui est exercée au moment, avant aussi les événements d'octobre. Par exemple, contre Nègre blanc d'Amérique, de Pierre Vallière. Qui a été saisie, et non seulement saisie, on est même venu, la police est même venue perquisitionner la Bibliothèque nationale pour récupérer les deux exemplaires, m'a-t-on dit, vous me corrigerez si je me trompe, pour récupérer les deux exemplaires qui avaient été déposés ici. On voulait vraiment en effacer toute trace. Mais si c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai, on m'a dit, mais vous pourrez confirmer ou infirmer, c'est assez fort comme ça. Sûr, là, c'est vraiment radical à la racine même des choses. On ne peut pas cependant dire que la censure religieuse est disparue, et peut-être que vous me voyez venir avec le cas des Fées en soif de Denise Boucher. En 1978, Denise Boucher publie Les Fées en soif, et bien là, c'est la censure tous azimuts. Elle est à la fois juridique, parce qu'il y a un procès, elle est à la fois religieuse, parce que les autorités religieuses, et en particulier les groupuscules religieux, interviennent. Quant à la censure aujourd'hui, et je trouve la première question là, de monsieur fort intéressante à cet égard-là, quant à la censure aujourd'hui, on pourrait avoir l'impression qu'elle existe peu, et je pense qu'elle n'existe pas tant que ça, il ne faut pas exagérer les choses. On la retrouve surtout, je pense, dans le milieu scolaire, dans les bibliothèques. Ça, c'est assez évident. Les cas les plus connus de censure touchent les milieux scolaires et la jeunesse tout récemment. Et je pense qu'on va la trouver là. Cependant, ce qui est difficile dans le cas de la censure contemporaine, c'est que le pouvoir qui, à l'époque, béni du clergé, était centralisé, maintenant est complètement diffracté partout. Le pouvoir est comme éclaté. Alors, il n'y a pas un seul lieu de pouvoir. C'était facile avec le clergé. Quand j'ai fait des livres là-dessus, c'était facile parce que le pouvoir était recentré. Mais là, le pouvoir est comme diffracté partout. Il est dans le politique, il est dans l'économique. Alors, il est extrêmement difficile à saisir. C'est la raison pour laquelle j'ai abandonné toute histoire de la censure après 60, parce que pour l'instant, je ne voyais pas par où je cernerais ça. Ce qui répond seulement à moitié à ta question, probablement, mais qui, je l'espère, soulève toutes les difficultés de comprendre la censure. Et, excuse-moi, je vais ajouter une autre chose. Excusez-moi les réponses. Bon. Et il faut bien penser qu'il y a deux censures. Hein. Il y a la censure qui interdit. Elle est spectaculaire, celle-là. Elle nous donne des beaux cas. Elle nous permet de faire des conférences. Puis, ça, c'est intéressant. Mais il y a une autre censure, autrement plus sourde, j'allais presque dire pernicieuse, et c'est Roland Barthes qui le dit ainsi, c'est la censure qui oblige à. Et celle-là, elle peut faire aisément partie de notre vie sans qu'on s'en rende trop compte. On ne nous empêche pas, on nous oblige à. On nous oblige à nous comporter de telle manière, à tenir tel langage, et ainsi de suite. C'est peut-être aussi une autre forme de censure à laquelle il faut être extrêmement attentif et qui oblige à faire travailler nos capacités d'interprétation, de décodage de la réalité. Si on reçoit un coup de masse, une interdiction, si on le voit, mais l'obligation oblige à faire fonctionner nos capacités de décodage de ce qui nous entoure. Cette autre censure-là, je pense qu'il faut en tenir compte. Tu avais une sous-question? Mm-hmm. Oh, non, ça ne dépasse pas tout à fait vraiment mon propos. C'est la censure.
Ouais, c'est ça. Est-ce que tu vois des histoires parallèles?
Ma réponse est non. Du moins dans l'état de mes non-connaissances. Je prétends pas que mes, c'est nos connaissances, mais j'ai exploré ce terrain-là à un moment donné en essayant d'aller voir ce qu'il y en est aux archives de la douane à Ottawa. D'abord, ça m'a dit que ces archives, c'était... le lupanard, bordel, oui. Que c'était presque, il y a 400 boîtes, puis que c'était presque impossible de retracer quoi que ce soit, d'une part. D'autre part, je pense effectivement que la plupart des cas se sont passés au Canada anglais. Pourquoi ils ne se sont pas passés au Québec, je ne sais pas. Mais les archives sont beaucoup trop difficiles. En tout cas, celui qui était là m'a découragé, là, dans le sens positif, de me mettre là-dedans. Il dit, ça va être épouvantable. Et je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup. Juste pour l'anecdote, le seul cas que j'ai vu, oui, mais ça se passe presque au Canada anglais, c'est Mgr Bruchesi, qui écrit à rien de moins que Wilfrid Laurier au début du siècle, du 20e siècle, pour que Wilfrid Laurier intervienne justement auprès des douaniers et lui donne toute une liste de revues qu'il ne veut pas voir entrer au Canada. Mais à part ça, là, je n'ai rien là-dessus. La censure à la douane? Probablement. Ça, je ne peux pas te le dire avec la loi sur l'obscénité, là. Oui. Probablement parce que cette loi-là sur l'obscénité, en tout cas celle de 59 a été changée après, là, mais touche non seulement l'exploitation indue des choses sexuelles, mais aussi le crime, etc. Fait qu'elle est assez large, là. C'est pas juste l'obscénité. C'est probablement cela, cette loi-là. Merci de tes contributions. Allez en paix. Merci beaucoup de vous être déplacés. Bonne fin de soirée.